Le tandem Europe 1.
Stéphanie Loire, Bruno Donnet.
Actuellement, le sort de l'humanité est en jeu. Mais ça, on ne le sait pas.
Vous souvenez-vous du tout premier candidat écologiste à l'élection présidentielle en France? Non? Mais si, rappelez-vous, il s'appelait René Dumont. Il portait de grosses lunettes rectangulaires, un pull-over rouge et, en 1974, il regardait la France droit dans les yeux pour lui flanquer les chocottes.
Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera.
C'était il y a 48 ans. René Dumont tirait la sonnette d'alarme dans une France dans laquelle les tempêtes et les inondations étaient pourtant rares, où les étés étaient encore raisonnablement chauds et où on ne parlait que très exceptionnellement de canicule. Ça, c'était donc il y a 48 ans. Mais ce que vous allez entendre maintenant, nous l'avons compilé un peu partout à la télé au cours de cette semaine du milieu du mois de juillet 2022.
Bonsoir à tous. La chaleur va devenir de plus en plus étouffante tout au long de ces prochains jours.
Avec près de 40 degrés dans le sud-ouest et 38 degrés dans le nord.
Là, quand il fait des chaleurs comme ça, c'est une horreur.
En Tarn-et-Garonne, le thermomètre pourrait frôler ce week-end des 43 degrés.
La France chauffe, surchauffe, enfermée sous un dôme de chaleur.
Et on attend un pic certainement lundi et mardi, donc prudence et surtout courage.
Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir à bord du tandem estival d'Europe 1. Et si je dis nous, c'est parce que pour m'aider à pédaler jusqu'à 10h, je suis accompagné de celle qui éclaire de ses grandes connaissances culturelles tous les sujets de société que nous abordons dans cette émission. Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour à tous, bonjour Bruno.
Ce matin donc, le sujet que nous avons choisi d'explorer avec vous est d'une brûlante actualité, puisque nous allons regarder comment, depuis René Dumont, la prise de conscience environnementale a évolué dans notre pays. Et le premier qui va s'installer à bord de notre petite embarcation très éco-responsable est un homme qui prend le pouls de la planète depuis fort longtemps. À vrai dire, il prend surtout sa température puisqu'il est climatologue. Mais il fut également, jusqu'en 2015, le vice-président du groupe scientifique du GIEC. Ça, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et il a reçu le prix Wetlessen, qui est l'équivalent du prix Nobel pour les sciences de la Terre. Bonjour, cher Jean Jouzel.
Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs.
Alors vous venez de l'entendre dans le préambule de cette émission, en 1974, René Dumont alertait déjà sur les grands périls qui nous frappent aujourd'hui. Que savait-il précisément à cette époque que le grand public ne savait pas?
Donc les années 70, ce sont vraiment les années des premières simulations climatiques, des premières modélisations. On regarde à cette époque-là la façon dont réagirait le climat en cas de doublement du gaz carbonique, et les premières simulations étaient déjà là et on commençait déjà à parler de réchauffement climatique. Donc disons que René Dumont était déjà visionnaire.
Alors, je vous ai posé cette première question, Jean Jouzel, parce que je suis tombé en préparant cette émission sur un document que je voudrais vous faire entendre. On est en 1977 et le chef du service météorologie de la Météo Nationale, il s'appelle Patrick Brochet, répond à une question qui lui est posée sur le spectre d'un réchauffement climatique. Écoutez.
S'il y avait un réchauffement, le réchauffement que l'on pourrait envisager serait un réchauffement très faible. Ce serait soit un réchauffement d'origine naturelle, ce serait aussi de l'ordre de quelques dixièmes de degrés, soit un réchauffement artificiel provoqué par les activités humaines, ce serait du même ordre de grandeur. Mettons que l'on aille jusqu'à 1 degré, les conséquences seraient à peine perceptibles.
Voilà, un visionnaire, hein, manifestement. Jean Jouzel, pourquoi, y compris parmi les scientifiques, certains d'entre eux minimisaient le problème à ce point?
Oui, il y avait une méconnaissance très claire, disons, de cette personne de Météo France, de la réalité du réchauffement. Mais effectivement, c'est une erreur de ne pas regarder ces premières publications des années 70.
Jean Jouzel, vous le savez, dans cette émission, on parle aussi culture. Stéphanie Loire, vous êtes allée gratter à la racine de la musique en faveur de l'environnement et de la planète, à la recherche des pionniers de l'écologie dans la musique. Et l'un d'entre eux est une icône folk.
Oui, dès 1970, Neil Young s'empare du sujet avec Afters de Gold Rush sur l'album du même nom, véritable manifeste écologiste.
Look at Mother Nature on the run in the 1970s. Look at Mother Nature on the run in the 1970s.
À Alors en France également, des chanteurs chantent en faveur de la nature dès les années 1970.
En 1972 précisément, Maxime Le Forestier chante comme un arbre dans la ville. Alors ici le texte n'est pas à entendre seulement pour sa tonalité écolo. L'arbre qui pousse et se débat, c'est aussi cette époque post-68, une jeunesse anticonformiste et contestataire.
Comme un arbre dans la ville. Entre béton et bitume, pour pousser je me débat, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume.
Enfin, parmi les tout premiers à entrer dans les foyers français avec des textes écolos, on trouve Jean Ferrat.
En 1964, Jean Ferrat interprète La Montagne, l'une des premières manifestations de l'écologie en chanson. Alors l'époque était au règne du twist et au consumérisme de l'American Way of Life. Jean Ferrat, lui, il était à contre-temps et il touchait le pays avec sa chronique de l'exode rural.
Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver.
Jean Jouzel, à l'instar de Jean Ferrat, des artistes ont dénoncé les mirages du progrès dès les années 60. Comment était perçu ce message à l'époque ?
Ben, disons que pour moi, Jean Ferrat, Maxime Le Forestier étaient des grands chanteurs. Neil Young aussi, d'ailleurs, je connaissais bien sûr, pas spécifiquement cette chanson, mais bien sûr, La Montagne est belle et L'Arbre dans la ville étaient vraiment des chansons très écoutées, très perçues, très bien perçues. Et c'est remarquable, cet hymne, disons, ce regard vers la nature qui a quand même manqué à beaucoup. C'est-à-dire, pendant ces années-là, c'était effectivement... disons, le développement industriel, je dirais, sans peut-être regarder en tout cas les conséquences justement de ce développement sur la nature. Mais voilà, donc ce regard était important et je crois quand même que ce sont des chansons qui restent dans le cœur de beaucoup de nos compatriotes.
Jean Jouzel, je voudrais maintenant vous faire entendre quelqu'un qui a beaucoup alerté lui aussi sur les menaces environnementales qui nous guettent. Il s'appelle Pierre Rabhi et écoutez ce qu'il disait en 1985.
Le problème, c'est que, par exemple, le développement industriel, le développement technologique n'a pas été accompagné d'une philosophie. Et là, ce que j'appellerais philosophie, c'est ce que vous appelez peut-être sagesse.
Pierre Rabhi avait-il raison de dire qu'il manquait une philosophie au développement industriel ?
Oui, je crois que le développement industriel, on est toujours dans les 30 glorieuses, ne se préoccupait pas de ses conséquences sur l'environnement. On développait, disons, sans regarder les possibilités. On parlait déjà des émissions de CO2 liées à l'utilisation des gaz à effet de serre, mais elles n'ont jamais augmenté aussi rapidement qu'à cette époque, les années 80, les années 90. On ne croyait pas à l'époque... nos actions très locales de chacun d'entre nous, finalement, avaient une influence à l'échelle globale.
Jean Jouzel, il semblerait que l'actualité brûlante nous rattrape. Je suis obligé de vous poser une question du jour. Il va faire ce week-end plus de 40 degrés dans de nombreuses régions de France. Qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous entendez les bulletins météo ?
Ben ça me déçoit que disons qu'on n'ait pas pris suffisamment compte de ce que nous répétons depuis maintenant, pour ce qui concerne les événements extrêmes, une bonne vingtaine d'années. Donc tout cela était, je dirais, largement prévu, prévisible, et ce que l'on vit aujourd'hui, d'une certaine façon, n'est pas vraiment une surprise pour notre communauté. Mmh. Et il aurait fallu effectivement prendre la mesure de ce réchauffement climatique. On ne se préoccupait peut-être pas assez de ces conséquences environnementales, de nos actions de tous les jours, de nos activités, effectivement des activités humaines.
Merci infiniment,
merci
Jean-Joseph,
beaucoup.
D'être venu faire un tour dans notre émission. Et bonne journée à vous.
Merci beaucoup.
Dans un instant, on va poursuivre notre petite promenade radio-pédalée au chevet d'une planète qui transpire ce matin et recevoir quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec les politiques. Il a notamment côtoyé certains des candidats à la dernière présidentielle et il en est ressorti totalement écœuré. Le chercheur François Jomène nous rejoint sur Europe 1. A tout de suite.
Bruno Donnet, accompagné de Stéphanie Loire.
Le tandem qui poursuit son parcours ce matin, toujours sans la moindre émission de CO2, pour tenter de comprendre comment les questions environnementales se sont progressivement imposées à nous, mais qui se demandent pourquoi nous avançons aussi timidement. Et pour nous aider et voir un peu plus clair, nous allons maintenant faire un petit bout de chemin en compagnie d'un homme qui est belge, chercheur, professeur à Sciences Po, spécialisé dans les questions de migrations environnementales, de politique d'adaptation au réchauffement climatique et co-auteur du 6e rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Bonjour François Jemaine.
Bonjour, bonjour à tous les deux.
Bonjour François Jemaine.
Alors on l'a entendu il y a un instant, les Français ont découvert l'écologie politique au tout début des années 70. Au même moment, un grand choc pétrolier a ébranlé l'économie et un peu comme c'est le cas aujourd'hui, hein, le prix des produits pétroliers s'est brusquement enflammé au point qu'en France, une campagne de publicité au slogan devenu culte a été matraquée sur toutes les antennes.
En France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées.
Comment expliquez-vous que la crise économique n'ait pas été un allié plus puissant que ça de la défense de l'environnement ?
Parce que je pense, à ce moment-là, on est resté bloqué dans les années 60. C'est-à-dire qu'on est resté bloqué dans une sorte de fantasme de croissance économique et démographique infinie et on n'a pas, en quelque sorte, accepté l'idée que la fête était terminée et que c'était la fin de la récréation. C'est dire qu'on n'a pas accepté en fait le fait que les Beatles s'étaient séparés et on s'imagine toujours que les Beatles vont se réunir, on espère toujours qu'il va y avoir une réunion des Beatles, alors qu'en réalité, les Beatles se séparent un peu au moment où on siffle la fin de la récréation, à la fois avec le rapport du Club de Rome sur les limites de la croissance, qui est publié en 72, le premier sommet des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm, 1972, qui tire aussi l'alerte, et puis le choc pétrolier de 73 qui, en quelque sorte, vient fournir une confirmation empirique à tout cela.
Alors on va continuer d'avancer un peu dans le temps pour s'arrêter cette fois en 1986. Le 30 avril, pour être précis, ce jour-là, un réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose, laissant s'échapper un immense nuage radioactif sur toute l'Europe. Mais en France, voici comment le directeur du service de protection nous informe de la situation.
On pourra certainement détecter dans quelques jours le passage des particules, mais du point de vue de la santé publique, il n'y a aucun risque.
Aucun risque. Alors y a-t-il, François Jemaine, sur les questions environnementales, une forme de culture du déni dans notre pays, la France ?
Sans doute un petit peu. C'est-à-dire que moi, je suis frappé, en tant que Belge, d'entendre souvent la France se proclamer championne du monde de l'écologie, notamment grâce à son parc nucléaire, qui souvent sert parfois un peu de prétexte pour ne pas faire grand-chose. Derrière, la France est le pays européen qui est le plus en retard, par exemple, sur le développement des énergies renouvelables. Je suis très frappé qu'il y ait quelques semaines de cela, on célèbre à coup de cocorico l'ouverture de la première éolienne en mer au large de Saint-Nazaire, alors que la France a des milliers de kilomètres du littoral. Moi qui viens de Belgique, où on a 63 kilomètres de côte, on a plus de 300 éoliennes offshore depuis longtemps, et encore on est nul à côté des champions néerlandais ou danois. Et donc je crois qu'il y a effectivement une certaine forme de déni parfois par rapport à cela, et un certain sentiment d'imaginer qu'on a déjà fait l'effort par le passé, qu'on est relativement exemplaire par rapport aux autres, ce qui en réalité n'est pas du tout le cas. La France n'est pas le pire élève de la classe, mais n'est pas non plus le meilleur.
Alors on continue d'avancer un peu, car à la fin des années 80, avec la découverte du trou dans la couche d'ozone, l'environnement va devenir une forme de tarte à la crème que vont beaucoup utiliser à des fins commerciales de nombreuses agences de pub. Je vous ai retrouvé un petit spot de 1989, c'est pour de la lessive, écoutez.
Ce petit coin de nature est le cadre idéal pour vous présenter le nouveau Le Chat Machine sans phosphate. Le Chat Machine sans phosphate, c'est pour vous la satisfaction d'obtenir un linge éclatant. Et en plus, vous contribuez au respect de l'environnement.
La pub qui s'empare de l'écologie, ça aurait pu être une chance, non ?
Ça aurait pu être une chance. C'est-à-dire que si on avait pu mobiliser pour la prise de conscience environnementale les mêmes moyens que ceux qu'on a utilisés dans la publicité ou dans le marketing, on aurait certainement évolué beaucoup, beaucoup plus rapidement. Je suis toujours très frappé qu'aujourd'hui, on n'en a encore qu'au tout début de, je ne vais pas dire de l'étude, mais de la prise en compte des études sur la communication du changement climatique. Par exemple, il faut attendre 2009 pour que le GIEC se décide à engager un attaché de presse, par exemple. Et c'est aussi une très grande naïveté des chercheurs qui pensent souvent qu'il va suffire de présenter les chiffres, les faits, les statistiques, les graphiques, et que d'un coup, ça va tout de suite induire l'action chez les gens, alors qu'en réalité, il aurait fallu, bien avant cela, effectivement, s'armer d'outils de communication politique, de marketing, etc.
Alors, je vous ai fait entendre la publicité, mais bien évidemment, personne n'était dupe. Hein. Personne, et surtout pas les nuls, qui, sur Canal+, en avaient fait une parodie épatante.
Parce que la nature est belle, le nouveau Le Chat Machine contribue à une meilleure protection de l'environnement. Encore moins de les phosphates, encore moins de la lessive, le nouveau Le Chat Machine, c'est rien que du naturel.
La parodie, c'est la seule façon de s'en sortir ?
C'est en tout cas une des façons de s'en sortir et une des façons de dénoncer effectivement ce qu'on appellerait aujourd'hui du greenwashing. Et donc, aujourd'hui encore, il faut pouvoir compter sur l'humour, sur la parodie, pour pouvoir dénoncer ce qui... souvent, et du greenwashing de la part de nombreuses entreprises, malheureusement.
Allez, après la pub, on va retourner avec vous, Stéphanie Loire, faire un petit tour du côté de la chanson et des précurseurs de la cause environnementale, car vous n'avez pas tout fait entendre tout à l'heure à Jean Jouzel. Vous avez conservé notamment une petite pépite pour François Jemaine, un titre interprété par un certain Johnny Hallyday.
Oui, à la fin des années 60, Johnny Hallyday veut parler d'environnement. Il demande alors à Philippe Labraud de lui écrire un texte qu'il lit sur la 7e symphonie de Beethoven. Il s'agit du récit apocalyptique d'un homme qui doute que l'eau fraîche, les arbres, les fleurs n'aient jamais existé. Le titre s'appelle « Poème sur la 7e ».
Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau et des pierres et des arbres et des oiseaux. Alors, ne vous moquez pas de moi. Qui a marché dans ce chemin? Vous dites qu'il menait à une maison et qu'il y avait des enfants qui jouaient autour. Vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée? Vous pouvez m'assurer que cela a vraiment existé?
On va changer maintenant un peu de style. On file dans les années 80 où des rappeurs français s'engagent pour protéger la couche d'ozone.
Oui, ce sont des pionniers du rap français, le groupe Assassin, qui s'empare de la question de l'environnement. Alors sans concession, qui ne fait la passe sur aucun sujet, la déforestation, la couche d'ozone, la pollution des océans, la disparition de la mer d'Aral.
Un trou dans la couche d'ozone, cela devient banal de parler d'ozone, mais sans elle, personne n'est autonome, car l'ozone nous protège du soleil. Et sans un radical changement dans les comportements, ni la prévention, ni les conseils, ne sont conseils de catastrophe naturelle. Naturellement pas, car les victimes sont les fautives. Cette fois, comment survivre dans un monde contrôlé par l'économie, où les problèmes écologiques sont délaissés, préférant le profit, comment ne pas respecter la nature, sachant que si l'air est pur, il peut y avoir un futur.
Et aujourd'hui, Stéphanie, c'est toute l'industrie musicale, en tout cas une partie, qui réfléchit également à son impact sur l'environnement.
Oui, le chemin alors est encore long, hein, mais il y a des collectifs qui sont concernés par les questions écologiques qui commencent à se multiplier. Je cite MDE, Music Declares Emergency, c'est un mouvement parti d'Angleterre en 2019, qui a très rapidement eu un écho médiatique grâce à des signataires tels que Massive Attack ou encore Billie Eilish. Alors la chanteuse pop américaine qui a seulement 20 ans est très engagée, elle se met en scène dans un clip apocalyptique où elle incarne un ange descendu sur terre, englué dans une nappe de pétrole et confronté aux incendies qui se multiplient. Le titre, c'est celui-ci, All the Good Girls Go to Hell.
Hills burn in California, my turn to ignore ya. Yeah. Don't say I didn't warn ya. Yeah. All the good girls go to hell, 'cause even God herself.
Alors j'ai une question, François Jemaine, la parole des artistes, est-ce qu'elle touche plus facilement le public qu'un rapport des experts du GIEC?
Certainement, en tout cas je pense qu'elle peut toucher un autre public, un public différent, qui sera peut-être plus sensible à la parole des artistes. Et moi ce qui m'inquiète, effectivement, il y a effectivement beaucoup d'artistes effectivement, qui sont engagés aujourd'hui pour l'écologie, que ce soit dans la musique ou dans le cinéma ou dans d'autres secteurs. Mais il y en a encore énormément aussi qui promeuvent un style de vie et des idéaux profondément consuméristes.
Vous pensez à quelqu'un
quand on regarde les réseaux sociaux, par exemple, c'est, et notamment Instagram, ce ne sont que des posts consuméristes où on semble donner comme un objectif de vie le fait de voler en jet privé ou de posséder plusieurs voitures de luxe. Et donc, les artistes aussi, quand même, dans leur grande majorité, il faut pouvoir le dire, notamment les rappeurs, ont contribué à promouvoir un style de vie profondément consumériste qui touche effectivement le monde entier. C'est-à-dire que pour beaucoup de jeunes aujourd'hui dans des pays émergents ou dans des pays en développement, l'idéal de vie, c'est un idéal de consommation, un idéal consumériste. Et là, on a vraiment un très gros problème.
François Jamène, j'aimerais maintenant qu'on aborde un chapitre un peu plus politique. Vous avez conseillé Benoît Hamon lors de la présidentielle de 2017. Oui. Et cette année, vous avez été sollicité par Yannick Jadot. Oui. Vous avez fait toute la campagne à ses côtés. Quel sentiment en avez-vous conservé ?
J'en conserve au final un sentiment de grande impuissance par rapport à ce que le politique peut en réalité décider par rapport à la manière dont il doit composer avec des intérêts divers et qui sont souvent assez contradictoires.
Vous avez été déçu ?
Oui, déçu d'une certaine manière que, effectivement, on sent que ces enjeux sont une préoccupation pour les Français, sont une préoccupation pour 82% des Français qui se disent concernés, tracassés, préoccupés par l'état de l'environnement, mais seuls 31% pensent que ça doit être une priorité politique. Et donc, il y a un décalage énorme entre ce que l'on sait, ce qui nous tracasse, et ce que l'on voudrait faire. Et ça, effectivement, c'est là, je crois, qu'on touche un peu aux limites de ce que peut faire la démocratie, en tout cas la démocratie représentative, comme elle est organisée aujourd'hui.
Alors, je vous ai préparé une petite compilation politique. Le premier extrait date de 2002. Jacques Chirac est en Afrique du Sud, au sommet de la Terre, à Johannesburg, et il dit ceci.
Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
C'était un signal encourageant.
C'était un signal encourageant pour l'époque. Et c'est souvent un peu le problème aujourd'hui d'une politique qui est faite de déclarations d'attention, de promesses qui sont un peu comme des sortes de résolutions de nouvel an dont on se félicite au moment où on les prononce et qu'on oublie dès le lendemain.
Alors, 8 ans plus tard, le président de la République a changé. Il s'appelle Nicolas Sarkozy. Et voici ce qu'il déclare en plein salon de l'agriculture.
Je voudrais d'ailleurs, au point où j'en suis, dire un mot de toutes ces questions d'environnement. Parce que là aussi, ça commence à bien faire.
Comment expliquez-vous un tel revirement d'un président à l'autre en seulement à peine 8 ans ?
Je dirais même du même président, Nicolas Sarkozy. C'est celui qui va nommer Alain Juppé, c'est-à-dire un poids lourd de la politique, comme ministre de l'écologie. C'est celui qui va mettre en place la commission Stiglitz, qui va proposer d'autres indicateurs que le PIB. C'est tout à fait novateur à l'époque. Et puis qui va faire ce type de déclaration. On est déjà en fait sur le « en même temps », c'est-à-dire « je défais de la main droite ce que je fais de la main gauche ».
Est-ce qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas de sincérité, y compris sur les questions environnementales, d'un point de vue politique ?
Honnêtement, je pense qu'il y a de sincérité sur à peu près rien. C'est assez dramatique, mais aujourd'hui, on a l'impression de la démocratie comme une sorte de grand jeu de stratégos où chacun va essayer de placer ses pions, où on va tester toute une série de propositions avec des sondages et on va regarder ce qui plaît et ce qui ne plaît pas et on va aligner son programme en fonction de ce qui plaît ou de ce qui ne plaît pas. Ou alors on va commander des sondages express à 5 000 euros dont on va orienter la question pour être sûr de la réponse et qu'on va ensuite présenter comme une information aux médias de manière à dicter l'agenda politique et médiatique.
François Jomène, on l'a appris très récemment, ni Marine Le Pen, ni Emmanuel Macron n'avaient lu le rapport du GIEC que vous avez coécrit au cours du débat de l'entre-deux-tours et aucune question sur le sujet ne leur a été posée.
C'est aussi une grosse responsabilité de journaliste. Si une question n'est pas posée, ça veut dire qu'elle disparaît de l'agenda politique, qu'elle disparaît de la campagne. Et après, tout le monde se lamente sur le fait « oh, on n'a pas beaucoup parlé de climat et d'écologie pendant la campagne ». J'ai envie de dire aux journalistes, mais vous n'avez guère posé de questions non plus sur ce sujet. Et donc, il y a une vraie performativité de l'interview politique. Selon les questions, ce sont les sujets dont on va parler pendant la campagne.
François Jomène, vous êtes sorti un peu essoré de la campagne présidentielle. Si on ne peut plus ou pas compter sur les politiques pour prendre le problème environnemental à bras-le-corps, qui peut s'en charger ?
Je pense qu'aujourd'hui, je suis frappé de voir comme les choses avancent beaucoup plus vite dans les entreprises, en tout cas dans certaines entreprises, et dans les collectivités. Et moi, j'ai tendance à croire que c'est plutôt de là que viendra le changement, si le changement arrive, qui viendra plutôt de minorités très conscientisées et très déterminées à faire changer les choses, plutôt que d'une majorité conscientisée.
François Jomène, vous êtes un invité coruscant. On vous remercie infiniment et on vous laisse mettre pied à terre.
Tout le plaisir est pour moi, merci beaucoup.
À suivre, quelqu'un qui est également infiniment brillant, mais très inquiet et très remonté, au point qu'il réalise des documentaires pour tenter d'alerter sur les questions d'environnement. Le cinéaste Cyril Dion rejoint le tandem d'Europe 1. À tout de suite.
Europe 1, tandem. Bruno Donnet, accompagné de Stéphanie Loire.
Le tandem d'Europe 1 qui participe à sa façon à la promotion des mobilités douces et qui pédale ce matin pour explorer l'histoire de la prise de conscience environnementale. Alors, notre prochain invité n'est pas physiquement près de nous, non pas qu'il entretienne une aversion particulière pour le vélo, bien au contraire, mais il a la fibre écologiste solidement chevillée au corps et pour ne pas alourdir le bilan carbone, le sien et celui de cette émission, il a préféré rester à distance chez lui. Et si nous avons eu très envie de le solliciter ce matin, c'est parce qu'il est à la fois réalisateur, romancier, poète et militant. Il y a 6 ans, il a reçu le César du meilleur film documentaire pour une œuvre très alarmiste intitulée « Demain » et il vient tout juste de faire paraître un recueil de poèmes publié chez Actes Sud au titre parfaitement explicite « À l'orée du danger ». Bonjour Cyril Dion.
Bonjour.
Alors des artistes qui se préoccupent des questions d'environnement, c'est pas nouveau. Hein. Je voudrais vous faire entendre l'un de vos illustres prédécesseurs. Il s'appelle Louis de Funès. Et écoutez ce qu'il disait à la télévision le 27 janvier 1983.
Vous intéressez-vous à la protection de la nature beaucoup ?
Mais énormément, comme beaucoup de monde. Vous savez, je vois maintenant que tout le monde est sensibilisé. Moi, je le suis beaucoup. Et comme le disait le commandant Cousteau, il disait en disant le mot de Cambrai, il disait mais enfin merde, c'est pour ça que vous devriez défiler dans les rues et pas pour autre chose. Et puis ouvrir les yeux au gouvernement. C'est pour ça qu'il faut défiler. Pour ça, là, on peut se battre dans la rue. C'est la seule chose qui vaille la peine. C'est la nature.
Comment expliquez-vous, Cyril Dion, que presque 40 ans après, on en soit toujours à appeler à des défilés et à des manifestations ?
Une des raisons pour lesquelles ça ne bouge pas plus que ça, c'est parce que, malheureusement, la plupart des décisions publiques aujourd'hui sont orientées par des intérêts privés. Il y a aussi une forme de difficulté qu'on a à encaisser cette nouvelle. C'est un philosophe australien qui s'appelle Clive Hamilton qui disait « On est tous un peu climato-sceptiques ». Parce que d'une certaine manière, on n'est pas capable de prendre la mesure de ce qui est en train de se produire parce que c'est trop difficile, que ça nous fait trop peur et qu'on n'a pas forcément non plus la réponse nous-mêmes, qu'on se sent un petit peu tout petit. Et donc on peut avoir tendance à basculer dans des mécaniques de déni pour se protéger.
Alors pour alerter le grand public se pose le problème de la manière de le faire. Les scientifiques et leurs projections terrifiantes ont manifestement échoué. Les artistes dont vous êtes s'y collent désormais, mais comment est-ce qu'il faut s'y prendre ? Est-ce qu'il faut faire peur à la population ou est-ce qu'il y a d'autres façons de faire ? Et quelle est la méthode que vous préconisez, vous, Cyril Dion ?
De toute façon, il faut émouvoir, puisque l'émotion c'est ce qui nous meut, c'est ce qui nous met en mouvement. Donc c'est ça que l'art peut faire. L'art peut nous... Je crois que c'est Vincent Lindon qui disait ça dans son discours de clôture du Festival de Cannes, qui disait « Un film, ça devrait au mieux susciter du désir avant, de l'émotion pendant et de la réflexion après. » Donc moi j'essaye aussi de susciter de l'enthousiasme, de susciter de l'élan, en montrant à quoi le futur pourrait ressembler, en mettant en scène des gens qui proposent d'autres façons de vivre. Et pour l'instant, je le fais avec le documentaire, mais là, on est en train de commencer à le faire avec la fiction, puisqu'on a lancé une société de production pour ça, avec Marion Cotillard, qui s'appelle Newtopia.
Alors, on l'a bien compris, hein, tous les pans de la culture s'emparent désormais du sujet environnemental. Et vous êtes penchée, Stéphanie Loire, sur la manière dont le cinéma a tenté, à sa manière, d'éveiller les consciences.
Oui, dans la fiction, il existe différents terrains d'expression, hein, comme vous veniez de le soulever, Cyril Dion, pour évoquer l'environnement. Parmi cela, la fiction d'anticipation. Alors, c'est rarement celle qu'on regarde pour se détendre le dimanche sous un plaid. Hormis quand il s'agit des films d'animation du grand maître japonais Hayao Miyazaki. Le thème le plus cher à Miyazaki, c'est bien sûr la protection de la nature, toujours plus ou moins présente dans chacun de ses longs métrages, avec Nausicaa de la Vallée du Vent en 1984, que vous avez sûrement vu, Cyril Dion. Il offre une véritable épopée écologique dans un monde où la civilisation industrielle a été détruite, où l'humanité essaie de survivre et de résister face à une gigantesque forêt qui ne cesse de gagner du terrain.
Si ce que tu dis est juste, le seul avenir de l'humanité serait l'extinction.
Sous la ville de Pégité, on aurait exhumé un monstre de l'ancien monde qui dormait là depuis des siècles.
Un de ces guerriers qui ont détruit le monde en 7 jours seulement.
Et apparemment, il en restait un qui dormait sous la terre depuis 1000 ans.
Alors, le japonais Miyazaki a été un formidable passeur. Hein. On a aussi beaucoup aimé son dessin animé intitulé Ponyo sur la falaise. Mais le genre qui a peut-être le mieux et le premier tiré la sonnette d'alarme, c'est celui de la science-fiction, Stéphanie.
En 2014, avec Interstellar par exemple, Christopher Nolan est parti sur ce terrain. Il nous raconte un monde où les êtres humains changent très peu de choses à leurs habitudes actuelles. Le chaos climatique est vu comme une fatalité. D'ailleurs, le pilote Cooper assure que la nature ne veut plus de l'homme sur la Terre.
Avant, quand on levait les yeux vers le ciel, on s'interrogeait sur notre place parmi les étoiles. Là, on fait que baisser les yeux et se soucier de notre place dans la poussière.
Et au chapitre anticipation, Stéphanie, vous avez également beaucoup aimé une série diffusée par Canal+, qui s'appelle L'effondrement.
Ah oui, son pitch, je vous le donne, notre système de société s'effondre, les pénuries énergétiques et alimentaires s'enchaînent, une galaxie de personnages tente de survivre, une traduction proche du futur tel que l'envisage la collapsologie.
Nous allons vivre l'effondrement de notre civilisation. Et je peux vous dire qu'il n'y a aucune institution dans ce pays ou ailleurs qui n'est prête à affronter ce qui va se passer.
Attends, Laurent, quand tu dis que le pays va être paralysé, ça veut dire quoi? C'est à cause des pénuries, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe?
J'ai pas les détails, mais c'est tout le système qui risque de se casser la gueule.
La seule loi ici, c'est la loi du marché.
C'est maintenant. Après, ça sera trop tard.
C'est la merde. L'eau a commencé à s'évaporer.
Il n'y aura plus de transport, il n'y aura plus d'essence, on pourra même pas communiquer.
C'est aujourd'hui, je le sens.
C'est plus grave que ce qu'il raconte à la télé. Hein.
Tout s'arrête un jour.
T'es pas inquiet pour tes filles, toi? On peut y arriver.
Arrête de me dire.
Papa, à la station!
Enfin, puisqu'on évoque ici les documentaires, hein, vous vouliez nous faire observer qu'ils peuvent parfois avoir une importance politique très inattendue.
C'était le cas en 2009, à 48 heures des élections européennes. Le documentaire écologiste de Yann Arthus-Bertrand, intitulé Home, en faveur de la cause environnementale, bien sûr, le film, il a été diffusé sur France 2, alors que l'échéance électorale européenne approchait. Dès le soir des résultats, beaucoup de politiciens ont dénoncé une manœuvre visant à favoriser la liste Europe écologie qui a obtenu 16,2% des voix en France.
La vie, ce miracle dans l'univers, est arrivé il y a presque 4 milliards d'années. Et nous, les hommes, il y a seulement 200 000 ans. Et pourtant, nous avons réussi à bouleverser cet équilibre. Avant la fin du siècle, cette exploitation sans mesure aura épuisé la quasi-totalité des réserves de la planète. Contempler ce qu'il nous reste peut nous aider à accepter ce nouveau défi. Et nous convaincre.
J'ai une question, Cyril Dion. Est-ce que vous pensez que c'est au scénariste d'impulser le changement? Et est-ce que, quand il traite l'environnement, est-ce que le scénario catastrophe est contournable?
Ben, j'espère qu'il l'est, oui. On a un problème d'imaginaire. Là, j'aime énormément tous les films dont vous avez parlé. Mais la plupart d'entre eux sont des films extraordinairement dystopiques. Dès qu'on est dans de l'anticipation, on a beaucoup de mal à sortir du scénario catastrophe. Des trajectoires où on tire les fils de ce qui va mal pour essayer de forcer le trait d'une certaine manière. Et là, nous, ce qu'on aimerait faire, c'est proposer des imaginaires de l'avenir qui nous redonnent un peu d'espoir. Où sont les films qui racontent comment on peut s'en sortir? Où sont les films qui racontent comment on vivrait si on était dans un monde où on avait stabilisé la température à plus 1,5 degré.
Cyril Dion, j'aimerais qu'on aborde maintenant le chapitre purement politique. Vous avez participé en 2019 à la fameuse Convention citoyenne pour le climat, MAZET, qu'Emmanuel Macron avait appelée de ses voeux. Alors, je rappelle brièvement le principe. Hein, 150 citoyens avaient été tirés au sort et chargés de faire des propositions. Vous les avez encadrés, vous avez proposé 149 mesures à Emmanuel Macron. Et puis, ça a donné quoi?
Donc effectivement, les citoyens tirés au sort ont fait des propositions qui étaient très ambitieuses, qui allaient beaucoup plus loin que ce que tous les gouvernements ont fait ces 30 dernières années.
Et puis?
Et il se trouve que la loi climat qui est ressortie de cet exercice-là, qui était supposée donc s'appuyer sur ces 149 propositions, a été infiniment moins ambitieuse que ce que les citoyens avaient proposé, parce que et le gouvernement et un certain nombre d'intérêts privés se sont appliqués à détricoter un peu ces mesures. Les citoyens de la Convention, par exemple, avaient proposé de faire un malus pour les véhicules les plus polluants, donc les plus lourds, en disant un véhicule de plus de 1400 kg, on devrait lui appliquer un malus parce que plus un véhicule est lourd et plus il consomme et donc plus il émet de gaz à effet de serre. Le gouvernement a transformé ça en les véhicules de plus de 1800 kg, sauf que les véhicules de plus de 1400 kg, c'était 25% du parc. Les véhicules de plus de 1800 kg, ça n'est plus que 2% du parc. Donc vous voyez bien que cette mesure perd tout son intérêt.
Cyril Dion, je voudrais vous faire entendre maintenant deux documents très courts. Hein. Dans le premier, vous allez reconnaître la voix du général de Gaulle en 1967. Et dans le second, eh bien, c'est Emmanuel Macron, 55 ans plus tard.
Comme on peut regretter la douceur des lampes à huile.
J'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine.
Comment expliquez-vous, Cyril Dion, qu'il soit aujourd'hui encore, alors que les épisodes de canicule se succèdent, que les tempêtes, la grêle, les inondations sont de plus en plus fréquentes, comment expliquez-vous que les décisions politiques soient à ce point inexistantes?
Dès qu'on essaye de toucher un secteur d'activité disant bah, il faut agir sur les transports, il faut agir sur l'isolation des bâtiments, il faut agir sur l'agriculture. Les tenants de ces intérêts fondent sur les ministères avec des cabinets d'influence qui sont très bien organisés et qui, en règle générale, finissent par emporter le morceau. On peut parler de Total en France, mais on peut aussi parler de BP, d'Exxon, de Shell, qui ont dépensé des milliards pour semer le doute dans l'opinion publique sur la réalité du changement climatique et qui ont fait perdre un temps précieux. On savait dès la fin des années 70 que le changement climatique existait, on savait les conséquences que ça pourrait avoir, et on a perdu 30, 40 ans. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation extrêmement grave où les conséquences du changement climatique se font déjà sentir et où il y a de fortes chances qu'on ne parvienne pas à rester en dessous des 1,5 degrés de réchauffement. On sait par exemple que si tous les responsables politiques de tous les pays qui se sont engagés dans le cadre des COP respectent leurs engagements, on serait quand même à plus 3,2 degrés à la fin du siècle. Et à plus 3,2 degrés à la fin du siècle, il y a 3,5 milliards de personnes qui vivent sur des territoires qui pourraient devenir inhabitables.
Vous nous avez bien réveillés et bien refroidis aussi. On vous remercie beaucoup, monsieur Alguien.
Merci.
Allez, après la pause, on va tenter de se donner des raisons d'espérer, de croire encore que tout n'est pas râpé, plié, cramé pour nous et pour notre planète à laquelle nous infligeons tant de bleu. C'est le point de vue que défend la directrice de l'Institut de développement durable, Lola Valéjo, qui nous rejoint dans un instant.
Europe 1, tandem. Bruno Donnet, accompagné de Stéphanie Loire.
Le tandem qui aborde maintenant la toute dernière ligne droite de sa promenade matinale sur la route ce matin de la prise de conscience environnementale. Alors, on l'a bien compris, hein, au fil de notre petit voyage dans les archives de l'actualité et de la culture, la situation est extrêmement préoccupante. Mais est-elle pour autant désespérée ? Non. Pas encore, pas tout à fait, c'est en tout cas le point de vue de celle qui va nous rejoindre maintenant et qui va nous donner un peu de baume au cœur dans cet été chaud et exceptionnellement sec. Elle est la directrice de l'IDRI, qui est l'Institut de développement durable et des relations internationales. Bonjour Lola Valéjo.
Bonjour.
Et
bonjour.
Merci d'embarquer avec nous. Alors on l'a entendu hein, tout au long de cette émission, les mauvaises nouvelles se succèdent pour la planète et ceux qui nous ont parlé avant vous sont souvent extrêmement pessimistes. Quels sont pour vous, les raisons d'espérer encore ?
Peut-être se rappeler que l'important face à la crise écologique, c'est de se dire que tous les efforts comptent, toutes les années comptent, et donc la moindre petite action nous permet d'améliorer la situation. Donc, c'est important de se rendre compte de la gravité de la situation, mais aussi de ne pas baisser les bras, parce que, par exemple, pour le climat, si on n'arrive pas à atteindre l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré d'ici la fin du siècle, eh ben, le prochain meilleur objectif, c'est 1,51 degré, 1,52 degré. Et finalement, baisser les bras, ça ouvre la porte à des résultats beaucoup plus catastrophistes.
Lola Valéjo, histoire de dissiper tout malentendu et pour bien comprendre où vous vous situez, j'aimerais vous faire entendre une petite déclaration. Elle date du 15 juin dernier et on la doit à Sylvie Brunel, qui est géographe et spécialiste des questions de développement.
D'abord, une remarque. Oui. Je pense que le monde tropical, 3,5 milliards de personnes, rigole en nous entendant nous affoler pour ces quelques excès de température qui, certes, se multiplient, mais c'est quand même le quotidien quand vous vivez à Dakar, à Abu Dhabi ou dans tout un ensemble de capitales du monde.
Est-ce que vous partagez ce point de vue ?
Absolument pas. C'est très grave d'avoir ce genre de déclaration. Les événements extrêmes, comme les vagues de chaleur, ils sont déjà des manifestations liées au changement climatique. Et si on ne fait rien pour réduire nos émissions, tout ça va évidemment bien empirer. Donc, il n'y a vraiment pas de débat sur ce constat-là.
On parlait à l'instant de communication. Alors, j'ai retrouvé des archives politiques que j'ai compilées pour vous donner un petit aperçu de la façon dont ceux qui ont les responsabilités parlent d'environnement. C'est assez édifiant. Vous allez voir que ce sont toujours les mêmes mots qui sont utilisés par ordre d'apparition. Vous allez entendre Anne Hidalgo, la maire de Paris, le député François-Michel Lambert, l'adjoint à la mairie de Paris David Belliard et l'ancien ministre de l'Agriculture Didier Guillaume.
En matière de transition écologique à Paris, il faut aller plus vite et plus loin.
Tous les gouvernements savent que nous devons anticiper la catastrophe du dérèglement climatique, à condition d'aller plus vite, plus loin, plus fort.
Il faut aller plus vite, plus loin, plus fort sur ces sujets.
Simplement, il faut aller plus loin, plus vite, plus fort.
Quand on entend des politiques parler tous de la même façon, faire uniquement des déclarations d'intention, qu'est-ce qu'il faut faire de ça ?
On a quand même la chance en France d'être dans un pays où, heureusement, les positions tout à l'heure climato-sceptiques, elles sont très minoritaires, voire inexistantes. même au sein de la classe politique, quelles que soient les vues prises. Et ça, il faut quand même s'en féliciter. C'est vraiment pas le cas, notamment quand on regarde aux États-Unis où le changement climatique est extrêmement polarisant politiquement. C'est déjà un bon départ. Après, évidemment, les déclarations, elles doivent être prises au mot. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur le fait que, quel que soit le parti, on ne peut pas nier la réalité du changement climatique. On ne peut pas dire qu'on ne va rien faire. Donc, toutes les personnalités politiques le font. Après, il faut les prendre au mot. Et il faut aussi demander plus de précisions sur qu'est-ce qu'ils mettent derrière. Et après, c'est un projet de société.
Alors, dans cette émission, Lola Valéjean, on se penche aussi sur la manière dont la culture s'est emparée du thème que l'on explore. Et je ne voudrais pas, Stéphanie Loire, que nous rangions notre tandem au garage sans avoir écouté et raconté l'histoire d'une chanson qui a été composée en 2003 et qui est un véritable manifeste écologiste.
Et oui, cette chanson, c'est Respire de Mickey 3D, premier grand succès du groupe fondé par Michael Furnon. Le texte s'adresse à un enfant pour l'alerter sur l'état du monde que les adultes lui laissent.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il n'y avait rien, au début c'était bien, la nature avançait, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter, des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer, les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtriser, en deux temps trois mouvements l'histoire était pliée, c'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière, on a même commencé à polluer les déserts.
La chanson elle a obtenu deux victoires de la musique en 2004, meilleure chanson de l'année et meilleur clip aussi, parce que l'image était très importante.
Alors effectivement, le clip de Mickey 3D là, c'est un véritable petit bijou de créativité, et il a eu beaucoup d'impact sur tous ceux qui, comme nous, l'ont vu.
Le clip, rappelez-vous, Lola, si vous l'aviez vu, en animation, représente une petite fille qui court dans ce qu'on croit être la nature avant de découvrir petit à petit qu'il s'agit en fait d'une nature synthétique reconstituée en studio. À l'époque, le clip tourne en boucle à la télé et on a tous ce refrain en tête.
Il faut que tu respires. Et ça, c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire.
Lola Valéjean, la chanson, la musique, c'est un message fort pour s'adresser au grand public, mais comment transformer la prise de conscience en une action collective ?
Je pense que c'est effectivement très important d'avoir des récits créatifs, quel que soit le médium, pour faire cette prise de conscience et... À mon avis, il y a une action collective qui a déjà commencé ces dernières années. On a vu beaucoup de manifestations, la jeunesse par exemple, qui était vraiment beaucoup trop jeune pour être éveillée par cette chanson-là. Je pense qu'il y a pas mal de mouvements associatifs qui existent. Quand on constate aussi une désaffection par les urnes, je pense qu'il y a dans le même temps un autre mouvement associatif qui peut-être quelque part prend le relais de gens qui justement ne veulent pas se sentir démunis par rapport à la grandeur des enjeux.
Lola Valéjean, j'ai une toute dernière question à vous poser. Vous avez prononcé très récemment une très jolie phrase, vous avez dit « il est trop tôt pour baisser les bras ». Y a-t-il un moment où il sera trop tard ?
Quelle que soit la situation où on est aujourd'hui, évidemment c'est 30 ans trop tard pour vraiment prendre au sérieux le changement climatique. Le deuxième meilleur moment pour faire quelque chose, c'est aujourd'hui. Et j'essaye pas de me projeter dans un futur apocalyptique où le plus important ce sera de creuser un bunker parce que c'est pas la situation où on est actuellement.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, ainsi s'achève notre escapade matinale qui a été concoctée par Clémentine Boulard et mise en onde par Julien Blanc. Après les infos de 10h, vous avez rendez-vous avec le clap de Laurie Choleva. Et quant à nous, Stéphanie Loire, on se donne rendez-vous bien sûr ici même dès samedi prochain. Mais juste avant, on adresse un salut amical à notre ami Max qui nous a envoyé des félicitations et un petit mot très sympathique la semaine dernière après notre toute première émission.
Oui, merci à Max qu'on embrasse chaleureusement et rendez-vous à tout le monde dès samedi prochain.
Bonne journée et bel été sur Europe 1.
Vous êtes chiants, les gars. C'est pas nous qui sommes chiants. C'est la nature qui est chiante.